Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Nous allons évidemment revenir sur l'information de ce jeudi matin, la fin du masque obligatoire en extérieur.
Une étape de plus vers un retour à la normale. Il y a tout de même des exceptions, notamment à l'école, nous allons y revenir en détail. Il est désormais l'un des principaux suspects dans la disparition de sa femme. Cédric Jubilard a passé la nuit en garde à vue. Le bac de philo débute l'épreuve dans une heure pour plus de 500 000 candidats au terme d'une année encore bien particulière. Et puis, nous vous expliquerons comment Cristiano Ronaldo et ses abdos en béton ont fait perdre à Coca-Cola plusieurs milliards de dollars en quelques secondes.
La politique avec Olivier Bost.
Et un gros plan donc sur la région PACA, une élection indécise et influente.
Votre analyse et vos explications dès la fin du journal.
RTL Matin. Les porteurs de lunettes vont sans doute être ravis, les hommes à barbe également, je peux moi-même vous le confirmer. Le masque qui gratte, qui colle, qui provoque de la buée n'est plus obligatoire dès ce matin. En extérieur, bonjour Sophie Orange.
Bonjour.
C'est Jean Castex qui en a fait l'annonce surprise hier. Quelques précisions s'imposent. D'abord dans les écoles.
Avec les enfants et leurs enseignants qui vont pouvoir enlever le masque dans les cours de récréation. Donc, pour la première fois de l'année, les élèves vont découvrir le visage et le sourire de leurs maîtres, maîtresses et professeurs. Incroyable.
Oui.
En revanche, il faudra remettre le masque en classe. Masque obligatoire aussi dans les files d'attente, dans un lieu bondé, devant les écoles, quand tous les parents ou les nounous attendent leurs enfants, sur les marchés, dans les tribune d'un stade, même quand on est vacciné. Et bien sûr, on doit porter le masque dans les transports, au cinéma, au bureau et dans les magasins. Les commerçants vont sans doute passer leur journée à demander à leurs clients de le mettre. On prévoit dans son sac une petite pochette pour ranger son masque, sans oublier le gel pour se laver les mains dès qu'on manipule le fameux masque. Le risque est 20 fois moins important dehors que dedans. Il devient infinitésimal lorsque le virus circule très peu, comme en ce moment. À peine plus de 3000 nouveaux cas par jour. Personne n'imaginait une situation aussi favorable, aussi vite.
Merci Sophie Orange. La France emboîte donc le pas à plusieurs de nos voisins européens. La Belgique par exemple, le masque est déjà tombé la semaine dernière. L'Allemagne, l'Espagne s'apprêtent à faire de même. Et alors que les températures s'annoncent encore une fois très élevées dans les jours qui viennent, cette annonce avec 15 jours d'avance est plus que bienvenue. Vous l'avez constaté dès hier, Sébastien Rouxel, dans le Marais, l'un des quartiers les plus animés de la capitale.
Oui, et certains, comme Émeric, ont même pris un peu d'avance. Pas de masque sur le visage du trentenaire, malgré l'affluence dans les ruelles étroites du quartier.
Très content que ça soit fini. J'ai l'impression de pouvoir sourire aux gens, que les gens me reconnaissent. C'est plus facile de m'aborder. Alors que quand il y a un masque, il y a une barrière. Mais ça, je vous avoue que ça me faisait un petit peu. Ouais.
À quelques pas de là, en plein soleil, Sabine et Jean-Claude profitent de la fraîcheur d'une petite fontaine. Pour eux, ces annonces tombent à point nommé.
C'est insupportable le masque à l'extérieur quand il fait très chaud.
On a du mal à respirer, moi je marche assez vite et tout de suite on suffoque un petit peu.
Comme eux, Daria profitera ce matin du plein air sans masque. Il faut dire qu'elle ne comprenait plus cette obligation.
C'est paradoxal de porter le masque à l'extérieur alors que dans le restaurant on est tous collés l'un à l'autre et puis on n'a pas besoin de masque.
D'autres hésitent encore, faut-il continuer tout de même à porter le masque? Sandrine a déjà tranché.
Bah moi je préfère le garder. Ouais. Quand vous êtes les uns sur les autres dans le marais, je suis désolée, mais c'est quand même mieux d'avoir un masque. Voilà.
Et pas question, dit-elle, de le retirer avant la fin de l'été.
Reportage de Sébastien Rouxel. Autre annonce, la fin du couvre-feu à partir de dimanche. Le dernier aura donc lieu samedi soir. Une décision qui intervient là encore avant la date prévue et justifiée par des indicateurs en nette amélioration. Depuis mardi, il reste moins de 2000 patients en réanimation. Emmanuel Macron appelle une nouvelle fois les Français à se faire vacciner pour stabiliser la situation. Plus du quart de la population a désormais reçu les deux doses nécessaires.
RTL 7h04, il avait déjà été entendu comme témoin. Il est désormais l'un des principaux suspects dans l'affaire Delphine Jubilard.
6 mois, jour pour jour après la disparition dans le Tarn de cette jeune infirmière, son mari, le père de ses deux enfants, Cédric Jubilard, a été interpellé hier, puis placé en garde à vue, tout comme sa mère et son beau-père. Bonjour Patrick Tégéraud.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Les enquêteurs ont relevé plusieurs incohérences dans la version du mari, suffisamment en tout cas pour procéder cette fois à son arrestation.
Oui, des écoutes téléphoniques auraient mis en évidence ces incohérences, peut-être lors de conversations entre Cédric et sa mère, ce qui justifierait aussi sa garde à vue. C'est certainement l'origine du coup de filet d'hier pour mettre le clan Jubilard sous pression. Personne n'a été épargné. La petite sœur de Cédric, 16 ans, a été entendue quelques heures hier après-midi. Sa nouvelle petite amie aussi et sa maison a même été perquisitionnée. Le soir de la disparition, Cédric Jubilard dit s'être couché vers 22 heures, mais son téléphone semble le contredire. Alors cet élément n'est pas nouveau, mais après 6 mois d'enquête, il fait partie de ce que l'on appelle un faisceau d'indices concordants. Et puis, en l'état, beaucoup d'hypothèses peuvent encore être retenues. Cependant, on peut en exclure quelques-unes, comme celle d'une dispute violente, d'une bagarre sanglante le soir de la disparition de Delphine. Quelques jours après l'ouverture d'enquête, la maison a été passée au détecteur de taches de sang. Aucun indice. Et en janvier, les systèmes les plus pointus de police scientifique ont été déployés dans la maison en vain. Alors, vous savez, les soupçons sur Cédric, les enquêteurs les ont toujours eus. C'est des preuves dont ils ont besoin aujourd'hui, ou à défaut, d'aveux.
Merci pour ces toutes dernières précisions, Patrick Tégéraud.
L'épreuve de philo du bac ce matin pour 525 000 élèves de terminale.
Début dans moins d'une heure, épreuve particulière cette année, puisque toutes les filières auront le même sujet et que seule la meilleure note sera retenue entre le contrôle continu et l'épreuve finale. Au choix, 3 dissertations ou une explication de texte. Raphaël Vantard a suivi plusieurs candidats en révision, certains encore plongés dans leurs fiches hier soir. Et n'allez surtout pas leur dire que le bac, c'est un diplôme qui ne sert plus à rien.
Veillée d'armes dans ce parc de la région lyonnaise, Jonathan et Romain révisent jusqu'au bout tranquillement autour d'un pique-nique.
J'ai un peu révisé parce qu'on a eu une semaine là. Ça devrait le faire, je pense.
Ça va bien se passer, on va tout donner et on verra bien.
Derrière la confiance, une pointe de stress apparaît. Même si ce n'est plus comme avant un marathon d'épreuves qui débute, ce nouveau baccalauréat reste impressionnant avec sa préparation perturbée par la Covid.
La préparation, avec le Covid et tout, c'était compliqué, mais on s'adapte. Surtout nous, il y avait beaucoup de profs qui n'étaient pas là, qui étaient souvent absents.
Et aussi, surtout avec les réformes aussi. On ne sait pas trop si ça va bien se passer. La petite boule au ventre qui monte et on va devoir juste attendre les résultats et espérer que tout se passe bien.
Réforme ou pas, à quelques heures de l'examen, Romain voit sa boule au ventre le rattraper. Le bac reste le bac, ce passage obligé d'une génération.
Depuis petit, on nous dit « ouais, vous préparez le bac ». Quand on est petit, on se dit « ouais, le bac, c'est dans longtemps ». Et puis là, on y est, c'est un peu stressant, quoi. Ça fait bizarre.
On y est avec déjà en vue, après l'épreuve, la fête pour les résultats et une vie étudiante que ses futurs bacheliers espèrent presque normale.
Un reportage signé Raphaël Vantard. On évoque à présent les fraudes aux prestations familiales, sujet souvent très politisé et utilisé avec plus ou moins d'arrière-pensée par les uns et les autres. Rappelons les chiffres. Sur les milliards distribués chaque année, la fraude ne représente qu'un tout petit pourcentage, à peine 0,3% d'allocataires, même si les chiffres, forcément avec ces montants, sont impressionnants. Bonjour Anaïs Bouissou.
Bonjour.
Ce sont 250 millions d'euros qui ont été détournés l'an dernier.
Oui, c'est quand vous oubliez, entre guillemets, de déclarer que vous êtes en couple ou que vous avez retrouvé du travail, plus rarement. Pour 15% des fraudes, on parle même de faux justificatifs et d'escroquerie. Si on regarde prestation par prestation, dans la moitié des cas, ce sont des fraudes sur le RSA, suivies par la prime d'activité et les fraudes aux aides au logement. En 2020, les caisses d'allocation familiale ont réalisé 36,5 millions de contrôles. Crise oblige, c'est moins qu'en 2019. Un peu moins de fraudes détectées aussi, mais les sommes recouvrées sont en moyenne plus importantes.
Et alors, quel est le montant moyen des prestations obtenues de manière frauduleuse, Anaïs ?
En moyenne, c'est 6 921 euros détournés et retrouvés par l'administration. C'est 300 euros de plus que l'an dernier. Sachant que les très grosses arnaques en bande organisée avec des préjudices en centaines de milliers d'euros sont beaucoup plus difficiles à déjouer. C'est pour cela aussi qu'une équipe spécialisée vient d'être mise en place. 30 contrôleurs, gendarmes, détectives privés, agents des impôts chargés de traquer et débusquer les arnaqueurs professionnels aux prestations familiales.
Merci beaucoup Anaïs Bouissou.
7h08, sorti dans l'espace sans trop d'encombre hier pour Thomas Pesquet.
L'astronaute français a passé plus de 7 heures en apesanteur pour installer un nouveau panneau solaire avant de regagner l'ISS. Une mission rendue plus difficile à cause de problèmes techniques, notamment sur la combinaison spatiale de son coéquipier. Au même moment, sur Terre, 3 hommes s'apprêtaient à partir dans l'espace. 3 taïkonautes chinois qui se sont envolés depuis le désert de Gobi pour rejoindre leur propre station en construction, l'équivalent de notre ISS. Décollage suivi pour nous par Stéphane Pambrin.
Il était 9h22 précise, heure de Pékin, quand la fusée Longue Marche a décollé en plein désert de Gobi. À son bord, 3 militaires, des taïkonautes comme on les appelle en Chine, dont le commandant Nirai Shang, 56 ans, ancien pilote de chasse. Les trois hommes qui font la une de tous les journaux ici ont pour mission de poursuivre la mise en route de Tianhe, la station spatiale chinoise. Tianhe, qui signifie harmonie céleste, porte toutes les ambitions de la Chine dans le domaine spatial. Les États-Unis ont refusé que Pékin participe au programme de l'ISS, la station internationale, et donc la Chine a son propre programme avec deux objectifs. D'abord la Lune, puis la planète Mars. Cette mission, c'est aussi du prestige chorégraphié à la perfection pour mettre en avant les réussites du régime, qui avec cette mission veut rattraper et même dépasser les puissances du secteur États-Unis, Union européenne, Russie, en termes d'exploration, de recherche et de lancement de satellites.
Stéphane Pambrin, notre correspondant à Pékin. L'actualité à l'étranger, c'est aussi cette poignée de main symbolique hier entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Les présidents russes et américains ont discuté pendant 3 heures à Genève. Une première rencontre positive, apaisée selon Joe Biden, mais toujours ponctuée de divergences. Le président américain a rappelé que les droits humains étaient primordiaux pour les États-Unis. Et sur ce point, dit-il, nous ne transigerons pas.
Et maintenant, voilà un qui ne risque pas d'être un jour sponsorisé par Coca-Cola. Il s'agit de Cristiano Ronaldo.
On va rappeler l'épisode. Alors qu'il débarque en conférence de presse lundi, l'attaquant portugais trouve devant lui 2 bouteilles du célèbre soda, l'un des principaux sponsors de l'Euro. Mais pas franchement en accord avec l'hygiène personnelle du joueur. Ce n'est pas en buvant du Coca qu'on se construit des abdos à la Ronaldo. Le voilà donc qui naturellement repousse les 2 bouteilles, sort sa propre bouteille d'eau et lance au journaliste de l'eau, pas du Coca. L'image évidemment est abondamment relayée. Réaction immédiate dans l'heure qui suit, Coca-Cola recule en bourse, 4 milliards de dollars perdus par un simple geste du joueur. Interrogé sur cet épisode hier, Raphaël Varane avait l'air un peu embarrassé.
Chacun est libre. Je pense que ça va déranger certaines personnes, d'autres non. Je pense qu'il y a aussi la partie business. Dans notre métier, c'est une facette aussi de notre métier. Donc les sponsors sont présents. Chaque joueur a son opinion. Il y a des sponsors, des partenaires qui vont nous plaire plus ou moins. Après, chacun réagit à sa façon. Je pense qu'il faut respecter les partenaires et respecter aussi l'opinion de chaque joueur. Et voilà, je pense qu'il faut être compréhensif dans ce genre de situation. Chacun a le droit de réagir comme il le souhaite.
Voilà, comment ne pas répondre à la question.
La paix des braves, oui.
On n'est jamais trop prudent avec ses sponsors. Ce n'est pas la première fois qu'un joueur, en tout cas, fait vaciller une grande marque. Il y a 2 ans, un basketteur américain s'était blessé au genou à cause d'une basket qui s'était déchirée en plein match, une basket Nike.
Oui.
Le cours de l'équipementier avait alors dévissé et perdu en quelques secondes plus $1 milliard.
Eh ben, on va s'occuper des courses et elles ont lieu à la teste.
Avec les pronostics de Dominique Cordier, attention, le 15 est non partant. Dominique vous conseille le 8, le 14, le 5, le 2, le 9, le 13 et le 4. La dernière minute, c'est le 14.